Des infokiosques, dont celui de Nancy, avec des brochures, badges et stickers féministes, antinucléaires et anticarcérales, des stands d'information sur les luttes locales, les luttes d'ailleurs, des stands où se ressourcer en boissons et choses à grignoter, des parvis d'église ou bronzés et plein d'autres petites choses intéressantes que l'on peut trouver comme ça au gré des envies, c'est ce que vous pouviez retrouver sur place devant le tribunal de Bar-le-Duc ce mercredi 2 juin. On estime à environ 300 le nombre de personnes sur la place. À 16h40, des gendarmes en uniforme qui surveillaient le rassemblement faisaient la queue pour manger des crêpes, clope au bec. Un gradé a fini par venir les rechercher, hein. Savait-il que l'argent des crêpes était destiné à renflouer les caisses de l'anti-répression de Bure. À 17h, un cortège d'une trentaine de personnes quitte le parvis et marche autour de la prison de Bar-le-Duc, à deux pas de la place du tribunal au rythme des batucadas. Les opposants et opposantes envoient leurs messages et chansons de soutien aux prisonniers et aux prisonnières pour briser les murs carcéraux. Le cortège revient très rapidement car à 18h30 a lieu la retranscription des amis et avocats et avocates de ce qu'il s'est passé aujourd'hui entre les murs du tribunal.
Nous sommes toutes des malfaiteurs.
Je vais essayer de vous donner une idée de ce qui s'est déroulé cet après-midi. C'était l'audition des témoins qui ont été cités par la défense, donc par les amis. Fait notable, le premier témoin qui a été cité n'est autre que Kevin Le Fur, le juge d'instruction qui a instruit l'enquête contre nos amis. Du coup, je vous cache pas que c'était pas désagréable de le voir pour une fois à la barre. Et donc il a été savamment interrogé par les avocats et avocates de la défense avec des petits éléments croustillants où on lui a bien rappelé qu'il devait se tourner pour parler au juge, et au fur et à mesure de l'audition il s'accrochait de plus en plus à la barre et il baissait de plus en plus la tête. Ça c'est un peu la jubilation mesquine en tant que militante. Après, juste sur le fond juridique, il s'est contenté de faire le rien à déclarer du juge d'instruction, c'est-à-dire qu'il a répété à quasiment toutes les questions que tout était déjà écrit dans son ordonnance de renvoi et qu'il n'allait pas la commenter. Donc ça a été un peu étonnant et ça a été relevé par la défense, que c'était assez rare qu'il n'ait pas défendu son dossier de 22 000 pages. Donc il y a eu très peu de réponses satisfaisantes de ce côté-là, enfin, de ce que j'en ai compris, après vous pourrez me compléter. Je ne vous détaille pas tous les sujets, toutes les thématiques qui ont été abordées, mais en gros, il y avait quand même des questions sur les moyens de surveillance qui ont été employés, et notamment l'IMSI Catcher, qui avait été une valise qui récolte les données téléphoniques des gens présents, qui avait été utilisée il y a quelques années devant ce même tribunal, alors que ce juge était juge du siège à ce moment-là. Donc ça, c'était un fait notable. Il y a eu des questions sur le coût de l'information judiciaire. On n'a pas eu de réponse. Il y a eu des petites questions intéressantes en termes d'anglais, à savoir comment ils traduisaient « legal team » ou alors « baby block ». Donc voilà, on n'a pas eu trop de réponses. C'est des éléments du dossier qui sont un peu étonnants. On fait beaucoup référence soit à la legal team qui n'est autre que le groupe juridique, ou au baby block qui n'existe tout simplement pas. Voilà. Bon, je m'arrête là sur le détail. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur cette audition du juge ? Quelque chose que j'aurais oublié ? Tu veux ?
Bonjour. Juste une chose, je voudrais vraiment qu'on fasse un grand merci aux témoins qui sont venus déposer aujourd'hui, à nos trois témoins, à Bernard Laponche, Vanessa et Claude, qui sont venus vraiment, c'était super ce que vous avez fait aujourd'hui. Claude, merci. Et voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Quelqu'un ?
Vous voulez en passer, vas-y.
Donc voilà, ça c'était un témoin, et comme vient de le dire Muriel, il y a eu du coup des témoignages super des autres personnes. Donc on a eu Bernard Laponche, que nous malheureusement dans la salle on a très mal entendu, et c'est vraiment, vraiment très énervant, parce que ça soit des personnes un peu plus âgées ou des voix plus haut placées, en fait on les entend très mal. Donc c'est très très irritant. Au bout d'un moment, ils ont quand même réglé la sono, c'est-à-dire qu'ils ont appuyé sur le bouton et qu'en fait, ça marche. Mais malheureusement, nous, depuis la salle, on n'a pas entendu le témoignage de Bernard. Je sais que les prévenus l'ont entendu et étaient très contents et contentes. Voilà. Et je ne sais pas si Bernard... Bon, voilà, vous pouvez... et sinon, ensuite, on a eu Vanessa Colicciani qui a parlé du dispositif d'association de malfaiteurs, et qui a bien rappelé en quoi c'est un dispositif d'exception, et qui a montré en quoi ça dépolitise complètement... elle dit ça mieux que moi.
Ça criminalise.
En gros... j'arrive pas à le dire. Bref. Du coup, c'était très intéressant ce qu'elle a dit. C'est chiant. Voilà. Et pour finir, nous avons eu Claude Kaiser, qui est un élu local, et qui a rappelé qu'il lutte depuis 28 ans contre ce projet, et qui a bien expliqué à quel point c'est une humiliation qu'il a marquée dans sa chair de voir ce projet imposé à tout prix, et d'être méprisé. Et donc il a témoigné de la colère que ça provoque, et la colère qu'il éprouve toujours aujourd'hui, et il a montré sa solidarité en disant qu'il aurait pu être sur le banc des accusés. Voilà, en gros.
Je vais compléter sur le témoignage très fort de Vanessa Codaccioni, donc qui a décrit les processus judiciaires par lesquels l'action politique était criminalisée, c'est-à-dire que la justice pouvait être utilisée pour nuire à l'action politique de militants et militantes. Et des questions lui ont été posées, et il y en a une qui m'a beaucoup fait rire, qui a été posée par l'un de nos confrères. Et il revenait sur des éléments du dossier, et ce qui était très intéressant, c'est que Vanessa Codaccioni, elle, répondait aux questions relatives au dossier, alors que juste avant, Kevin Le Fur n'a pas voulu répondre à quoi que ce soit concernant le dossier. Et donc il y avait ce déséquilibre qui était tout à fait frappant. Et donc Florian commence à revenir sur l'un des chefs d'accusation, qui est le fait d'être complice en vue de faire quelque chose et en bande organisée. Et donc il lui demande, mais ça veut dire quoi en vue de ? Elle dit, c'est un délit d'intention, c'est-à-dire qu'on punit l'intention de faire quelque chose. Donc déjà c'est quand même bizarre. Et complice d'une intention, ça veut dire quoi ? Alors là... Et alors, complice d'une intention en bande organisée. Et donc là, Vanessa Codaccioni regarde Florian, et elle se retourne vers le juge, et elle lui dit « Mais monsieur le juge, c'est complètement délirant. » Et je pense que c'était finalement la meilleure analyse juridique de ce dossier qui a pu être proposée. Donc merci à elle d'avoir fait le déplacement. Évidemment aux autres témoins également.
Est-ce que on me demande si Claude ou Bernard ont envie de donner leur retour sur ce qu'ils ont vécu cet après-midi ? Ou est-ce que quelqu'un d'autre a envie de rapporter quelque chose ? Ok, il arrive. C'est super.
Mais Claude, il est où ?
Il est où, le Claude ?
Alors, sur l'après-midi, j'ai un souvenir mitigé. Parce que... On nous a fait venir hier à 9h pour dire qu'on était bien là. Et puis après, il fallait être ailleurs parce que les témoins ne doivent pas assister au débat. Donc j'ai fait autre chose. En particulier une réunion en vidéo pendant 3h sur la sûreté nucléaire. Donc je pourrais vous parler aussi de la sûreté des réacteurs nucléaires, qui est assez inquiétante. Il faut mettre le micro... Ah oui, voilà. Bon, il faut garder. Je ne sais pas quelle est la règle. On peut enlever le micro, le masque. Bon. Et donc, on n'était pas là, on ne pouvait pas être là. Après ça, on a été convoqué à 14h. Il y a même quelqu'un, un avocat que je nommerai pas, qui m'avait dit que je passais en premier. Donc j'étais tout content. Et on a attendu 2 heures, assis dans une petite salle où on papotait un peu, on racontait chacun qu'est-ce qu'il foutait là. Et puis, il y a une troisième témoin qui est arrivée de Paris directement, la dame, très bien, qui a fait tout un exposé juridique absolument remarquable, qu'on n'entendait qu'à moitié, mais la moitié était passionnante. Et puis, bon, alors après, on a été interrogé. Ce qui était pas mal dans le fait d'être interrogé, c'est que, apparemment, le tribunal, au début, était un peu réticent, et puis finalement, a semblé intéressé par le sujet. C'est ce qui est très important, parce que si vous avez des cas où vous vous rendez compte que le tribunal s'en fout complètement du sujet. De quoi on parle ? Eh bien, on parle des déchets. Donc j'ai pu expliquer un peu ce que c'était ces déchets. Alors ça n'a pas été entendu apparemment par la plupart des gens, donc c'est un peu décevant. C'était pas parce que ma voix était fatiguée ou quoi que ce soit, mais parce que le micro ne marchait pas. Bon. Deuxième chose. Alors après, ça allait être un peu mieux avec les deux autres témoins. Et c'était vraiment très, très intéressant. Alors, je ne sais pas très bien ce qu'ils peuvent en faire, mais je crois que personne ne sait très bien ce qu'ils peuvent en faire. Mais je pense quand même que tout ce qui a été dit a montré d'une part que le sujet était loin d'être, banal. Parce que le sujet des déchets nucléaires, c'est un sujet absolument énorme, qui d'ailleurs touche tous les pays. Tous les pays qui ont fait du nucléaire, ils ont une situation complètement kafkaïenne. C'est que les déchets s'accumulent, et qu'en fait, il n'y a pas de solution. C'est-à-dire que la solution de l'enfouissement a prouvé qu'elle a été les quelques essais qu'il y a eu jusqu'ici, que ce soit en Allemagne, etc., ou en Alsace, à Stockamine, c'est des échecs. Et donc, il est probable que si jamais il commençait à être construit, ce serait un échec. Et donc, on reste avec cette question, qu'est-ce qu'on fait des déchets ? Alors, il faut bien faire quelque chose pour ceux qui existent, mais il faut s'en rendre compte, et je crois que c'est clair, c'est que l'utilisation de l'énergie nucléaire pour produire de l'électricité est une solution totalement aberrante. D'abord parce que les réacteurs nucléaires sont dangereux, et d'autre part parce que les déchets sont dangereux. Et donc alors que produire de l'électricité devrait se faire par des méthodes relativement simples, et maintenant on les connaît, c'est au moins l'éolien et le photovoltaïque, qui au niveau mondial prennent une place prépondérante par rapport à un nucléaire qui est en décroissance. Et alors qu'en France, on continue à maintenir contre vents et marées une stratégie qui date des années 60 et qui devient complètement obsolète. Donc, continuer à militer à fond parce que le nucléaire est en crise et donc c'est le moment de pousser. Merci.
Du coup, pour cet après-midi, il y a eu les témoins, c'était super. Bon, le FUR, c'était pénible, et après les autres, c'était super. Et ensuite, il y a eu l'incroyable prestation du maire de la commune de Bure. L'avocat qui représentait le maire de la commune de Bure. Et j'ai bu une gorgée de bière, je suis désolé. Alors, l'avocat de la commune de Bure, il faut savoir qu'il dort depuis le début du procès. mais que comme il est partie civile, régulièrement, on lui demande s'il veut dire quelque chose. Donc il dit évidemment rien, jamais. Et moi, à tel point, là, j'étais là depuis ce matin, je ne comprenais pas exactement qui il était censé représenter. Donc il représente la commune de Bure et l'assurance de la commune de Bure. Et à la fin des témoignages, qui étaient touchants, passionnants, bouleversants pour certains, c'était hyper émouvant le dernier, etc. Et ben, il y a ce type qui a été invité à plaider et qui avait l'air extrêmement dérouté de devoir plaider, alors que c'est... Bon, il est avocat, quoi. Et il a demandé s'il pouvait pas plaider demain, et le tribunal avait l'air de considérer que c'était quand même pas très important. Du coup, c'était bien si on pouvait l'expédier là à la fin de la journée. Du coup, ils ont proposé une pause. Il avait pas vraiment l'air de vouloir faire une pause non plus. Il a dit, bon, bah, je vais y aller. Enfin, vraiment, il y avait un truc hyper cocasse. Et donc, il a plaidé avec une mollesse assez olympique, comme ça, mais sans s'arrêter, mais vraiment en allant très lentement. Et il a dit qu'il était là pour représenter le maire de Bure à titre symbolique, pour dire que la commune de Bure existe, que c'est compliqué d'être maire d'une petite commune, etc. Qu'il respecte tous les points de vue, même ceux qui ne sont pas forcément légitimes, on n'est pas sûr d'avoir compris ce qu'il voulait dire. Bref, que c'était compliqué, que la commune de Bure n'était pas contre ou pour le nucléaire, ni les déchets. Enfin, il y avait tout un truc comme ça, un peu mou. Suite à quoi, il a dit qu'il était là vraiment de manière symbolique, que sa prestation serait très brève pour ne pas occuper le temps de la justice. Et après, il a quand même demandé 50 000 euros de dommages et intérêts pour la commune de Bure. En la qualité de la commune de Bure est propriétaire de l'hôtel-restaurant, hôtel-restaurant dans lequel il y avait eu des exactions, des dégradations, qui ont lancé l'instruction, la commission rogatoire, etc., qui sont au cœur du dossier, mais pour lesquels personne n'est poursuivi. Donc, il demande 50 000 euros, on ne sait pas exactement à qui. J'imagine que si tout le monde est condamné à une grande association de malfaiteurs, alors on est aussi coupable des faits pour lesquels on n'est pas accusé directement. Enfin, je ne sais pas quel est le raisonnement. En tout cas, il demande 50 000 euros et l'assurance de la commune de Bure, qui a donc payé pour... comment on dit ? Pour regrader après les dégradations ? pour... Il a dit refaire le parquet. Enfin, je vous ferai pas le détail. Donc, c'est 18 600 euros et 62 centimes. Donc, ça fait en gros à peu près plus sa prestation à lui qui valait 4 000 euros. Ouais, ça fait hyper cher. Donc, en gros, il demande 72 000 euros de dommages et intérêts pour des personnes qui seront, même si elles sont condamnées, pas condamnées pour les faits pour lesquels lui, il demande de l'argent. Enfin, voilà. Suite à ça, tout le monde a décidé que c'était suffisant pour aujourd'hui. Et donc, ça reprend demain à 9h du matin avec les réquisitions du procureur, qui a dit que ça durerait, qui a dit qu'il s'était pas chronométré, mais que sûrement ça durerait pas toute la matinée. Donc, a priori, il y a les réquisitions du procureur demain matin, puis une pause, le début des plaidoiries des avocats et avocates de la défense, et a priori, une pause déjeuner et suite et fin des plaidoiries dans l'après-midi. Et ensuite, la boum, à Bure.
Et du coup, pour les personnes qui pourront pas rentrer à l'intérieur du tribunal, demain, il y aura une grande kermesse toute la journée. Et l'après-midi, il y aura le pot de départ de Mazoyer, qui est l'ancien directeur de l'ANDRA. Donc on va pouvoir fêter le fait qu'il s'en aille. Et voilà. Et donc rendez-vous demain à 8h15 pour l'actidance, pour ceux qui sont chaudes. Et tout de suite maintenant, on va tout ranger. Du coup, ceux qui ont envie d'aider à faire les barnums, et ben c'est trop cool.
30 secondes pour signaler que ceux qui sont intéressés par le bouquin de Vanessa Codaccioni, le bouquin s'appelle « Répression, l'État face aux contestations politiques ». C'est chez Textuel, 12,90 €. Elle est passée sur France Culture. Vous avez toutes les informations sur les affiches RCN. Et j'ai photographié, mais c'est sur les stands, aussi la quatrième de couverture. C'est vraiment un bouquin extra. Et à défaut, on peut toujours écouter sur France Culture, je suppose. Textuel, répression, Vanessa Codaccioni. 12,90 €.
Et je voulais rajouter aussi que demain, il y aura des frites à midi. Il y a le premier bain qui est en train d'être fait, là, et voilà. Il faut venir si vous voulez manger des frites.
Nous sommes toutes des
malfaiteurs.
Nous sommes toutes des malfaiteurs.